nous allons maintenant déclarer notre foi avec des paroles d'une ancienne déclaration de foi. Ça s'appelle le symbole des apôtres. Ça fait quelques siècles que les chrétiens proclament leur foi avec ces mots. Donc nous allons le faire ce matin pour exprimer ensemble notre foi en Dieu. Alors je vous invite à regarder l'écran et alors le suivre. Et on va le dire tous ensemble à haute voix, si c'est ce que nous croyons. Ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Et il viendra là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prenons place. Ça fait du bien de pouvoir exprimer ensemble notre foi et de garder ces vérités en tête. Je voulais juste vous donner quelques informations par rapport à ce qui se passe cette semaine. Vous pouvez voir sur la feuille que je vous ai donnée, ou que Howard et Trisha vous ont donné à l'entrée, quelques informations. Chez nous à Evere. Et donc si vous avez envie de venir, même si vous ne pouvez pas être là toutes les semaines, si vous pouvez venir ce jeudi, vous êtes le bienvenu. On aura un temps autour de la Bible, on aura un dessert ensemble, mais on aura aussi un temps autour de la Bible en discussion, et puis on priera les uns pour les autres. Donc venez chez nous si vous le pouvez à partir de ce jeudi soir. Aussi, la convention, c'est une réunion spéciale pour toutes nos églises évangéliques francophones à Bruxelles et en Wallonie. Et donc si vous voulez appartenir à un plus grand groupe, pour une journée, ça fait plaisir d'être avec des centaines de chrétiens belges plutôt que simplement entre nous ici le dimanche matin. Et il y a des activités pour les enfants et pour les ados, et il y a une garderie pour les tout-petits, mais il y a aussi des réunions pour nous édifier, nous encourager dans notre foi. Donc rendez-vous à Charleroi le 11 novembre, c'est donc pas demain, mais lundi en 8. Les informations sont sur le site web convention.be, laconvention.be, vous pouvez regarder ça à votre aise pour les informations. Et la feuille donne les autres explications. Je pense que c'est tout en termes d'annonces. Maintenant, c'est bien de pouvoir prier les uns pour les autres. Donc, si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas à les évoquer. La semaine passée, j'ai... moment de prédication, mais avant d'ouvrir la Bible, j'ai un petit défi pour vous. Je vous demande de ne pas regarder dans la Bible ou dans la Bible sur votre téléphone. Je ne vais pas vérifier. Mais c'est pour vous demander de noter sur la petite feuille là les fruits de l'esprit. Alors il y en a 9, les fruits de l'esprit. On va parler aujourd'hui des fruits de l'esprit, les fruits que les qualités que l'esprit produit en nous. Si vous n'en connaissez vraiment aucun, je peux vous dire que l'amour c'est un, d'accord, c'est un des 9. Mais c'est à vous de noter les autres. Vous pouvez toujours demander à votre voisin, votre voisine, si vous êtes bloqué, vous n'avez pas vraiment trop d'idées. Peut-être qu'il peut vous aider à trouver l'un ou l'autre qui manque. Mais sans regarder la Bible, essayez de noter, vous avez quelques secondes pour le faire, les 9 fruits de l'esprit. Voilà, est-ce que vous avez les 9? On va vérifier. Il y a d'autres choses, bien sûr, que le Saint-Esprit produit, mais je vais les dire et vous allez voir si vous les avez. Vous pouvez cocher si vous les avez. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà les 9. Aujourd'hui, on va parler de la liberté qui porte du fruit. Tout au long de notre série en Galates, on va parler de liberté. Et maintenant, on va voir en fait à quoi ça mène, à quoi ça conduit. Et par la liberté que donne l'Esprit, et par l'Esprit lui-même qui agit en nous, le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire les qualités de l'Esprit, se manifestent dans notre vie. Vous savez, quand on est jeune, on ne se rend pas toujours compte de certaines choses. Il y a des choses qu'on va apprendre plus tard. J'ai pensé particulièrement à ça, deux choses que je pense que j'ignorais quand j'étais jeune. Je ne me rendais pas compte que nos choix qu'on fait en tant que jeune ont une influence et des conséquences plus tard. On y pense peut-être quand on choisit nos sujets, on va étudier tel sujet pour pouvoir étudier ça après. Mais on ne pense pas aux autres choix qu'on fait comme ayant des conséquences plus tard. Si je suis paresseux quand je suis jeune, bien je vais devenir un homme qui peut-être ne travaille pas ou qui est paresseux. Si je n'ai pas de maîtrise de moi quand je suis jeune, peut-être que je vais devenir plus tard un pervers. Il y a des conséquences plus tard. Si je commence déjà à maîtriser ma vie quand je suis jeune, à maîtriser mon corps et mon être, eh bien je deviendrai quelqu'un qui serait... Il sera plus maître de lui quand il est adulte. Mais aussi, je pense qu'on ignore quand on est jeune qu'en fait, on se souvient très bien de beaucoup de choses de notre jeunesse plus tard dans la vie. Quand on est jeune, on pense que dans 10 ans, on aura tout oublié. Mais au contraire, on se souvient 20 ans, 30 ans parfois après, de conversations qu'on a eues, de personnes qu'on a rencontrées, de messages qu'on a entendus. De choses qu'on a dites ou faites dans notre jeunesse. Et je vais partager un souvenir avec vous. Je me souviens, c'était environ il y a 30 ans, un soir au groupe de jeunes, l'animatrice avait posé une question. Elle avait dit, est-ce que tu peux imaginer comment serait ta vie si tu n'avais pas le Seigneur? Si tu n'avais pas Dieu comme maître de ta vie, comment serait ta vie? Et je me souviens de ça parce que ce qui m'est venu à l'esprit ce soir-là, c'était la liberté. J'ai pensé, ah, si je n'avais pas Dieu comme maître de ma vie, je serais libre. Parce que pour moi, à l'époque, le christianisme, c'était un peu une règle, une liste de règles de choses que je ne pouvais pas faire. Je savais que je ne pouvais pas faire ça et ça et ça et ça. Et je me suis dit dans ma révolte ce soir-là, si Dieu n'était pas dans ma vie, je pourrais faire ce que je voudrais, je serais libre. En fait, je n'avais pas compris ce que c'était la vie chrétienne. Je n'avais pas compris que, en fait, ça c'est de l'esclavage à laquelle le péché nous conduit. Mais plutôt, je dois apprendre la vraie liberté que nous allons découvrir aujourd'hui, qui est cette liberté qui porte du fruit. Maintenant, vous pouvez ouvrir votre Bible et je vous encourage à le faire. On va continuer notre lecture en Galates, chapitre 5, et nous allons lire les versets 13 à 26. Galates 5, 13 à 26. Nous en sommes arrivés jusqu'au verset 12 la semaine passée. On reprend avec le verset 13. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Si vous parlez avec quelqu'un aujourd'hui, et vous demandez qu'est-ce que tu vas faire pendant l'après-midi, et qu'il dit qu'il va se livrer aux pires excès du péché pendant l'après-midi. Comment est-ce que tu réagirais? Mais tu te rends compte de ce que tu dis? Pourquoi? Comment est-ce que tu oses dire que tu vas faire ça et ça et ça et faire tout ce que ton ancienne nature voudrait que tu fasses? Comment oses-tu dire ça? Et puis qu'il te dise, eh bien oui, parce que je suis libre. Parce que je suis libre, je peux faire ce que je veux. Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu pourrais répondre? Eh bien, il faudrait répondre avec les mots du verset 13 qui nous permet de comprendre la nature et la limite de notre liberté. Verset 13, c'est à la liberté que vous avez été appelés, la liberté chrétienne, la liberté en Christ. Seulement, attention, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre chair. Alors, la nature propre, c'est une traduction, d'autres disent propre nature, mais c'est la chair qui parle de toute notre ancienne nature. On peut penser, quand on entend le mot chair, à nos pulsions physiques, la gourmandise ou la sexualité qui dépasse les bornes, et c'est vrai que ça fait partie de la chair, mais selon la Bible, la chair, en fait, c'est toute notre ancienne façon d'être. Notre ancienne façon de penser même. L'orgueil peut être le fruit ou le résultat de la chair. Nos aspirations, nos conflits peuvent être le résultat de la chair. Nos paroles sont aussi de la chair. Vous voyez, la chair, ce n'est pas seulement ce qui est physique, mais c'est aussi toute notre façon d'être en tant que non-chrétien. Et Dieu, qui nous veut libres, il nous accorde la liberté, mais il ne nous donne pas la permission, la liberté, pour faire tout ce que notre chair voudrait qu'on fasse, suivre nos voies. Il dit même que c'est l'opposé de ce que Dieu veut. Mais nous connaissons tous cette tentation intérieure de dire, j'ai envie, et j'ai mes projets, et j'ai mon mode de vie, et j'ai finalement mes passions. En fait, on finit par vivre pour soi. Au lieu de faire cela, il dit non, non, n'utilisez pas cette liberté comme un prétexte. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. C'est tout un programme, n'est-ce pas? Voici l'antidote à la vie égoïste où nous vivons pour nos anciens désirs. C'est par l'amour que Dieu nous donne qu'on sert les autres. On apprend à aimer. Pas en faisant des grandes déclarations d'amour les uns envers les autres, en disant combien nous avons de l'affection les uns pour les autres. C'est bien parfois de se le dire, mais c'est surtout par des œuvres où on montre qu'on est au service des autres. C'est plus précieux, plus utile que de grands discours, c'est le service. Quelqu'un qui va conduire une sœur à l'église, par exemple, parce qu'elle n'a pas de moyen de se déplacer. Ou quelqu'un qui fait le café. Ou quelqu'un qui s'occupe des enfants. Ou prépare sa table à la maison pour accueillir quelqu'un. C'est toutes des façons de servir par amour pour les autres. C'est pas facile, mais on le fait lorsqu'on aime quelqu'un. Et ça plaît à Dieu, ça réjouit son cœur. L'amour, il va dire, est l'accomplissement de la loi. L'amour du prochain, qui est essentiel pour l'Église, c'est aussi le résumé de la loi qui concerne les relations humaines. Bien sûr, il y a la loi qui parle de notre relation à Dieu. Il faut aimer Dieu d'abord. Mais quand il dit c'est l'accomplissement de la loi, il dit cela au verset 14, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il pense à tous ces commandements qui concernent nos relations humaines. Donc, par exemple, tu honoreras ton père et ta mère. Si tu les aimes, tu vas les respecter. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas le tuer, tu ne vas pas le violer, tu ne vas pas commettre l'adultère, tu ne vas pas mentir à ton prochain, tu ne vas pas voler ses affaires. Tout ça est résumé par le fait d'aimer son prochain. Vous savez que les Galates étaient très soucieux de se conformer à la loi. La loi est mentionnée trois fois ici dans cette courte section de la lettre. Mais Paul montre qu'en fait, on arrive plus loin que la loi. La loi nous dit il faut faire ça ou il ne faut pas faire ça. Mais plus loin que la loi, au-delà de la loi, pour accomplir la loi par l'esprit et le service de l'amour réciproque. L'amour réciproque lorsque nous servons les uns les autres à l'Église. Donc, ce n'est pas seulement quelque chose d'intérieur où j'ai de l'amour pour les uns les autres. C'est quelque chose qui est exprimé lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous servons chacun par ce qu'il apporte ou ce qu'elle apporte pour prendre soin des autres. Et lorsque nous nous rassemblons, nous pouvons venir avec deux attentes opposées. Vous pouvez venir à l'Église en disant, est-ce que je vais être bien servi? Est-ce que je vais être bien accueilli? Est-ce que quelqu'un va bien enseigner? Est-ce que quelqu'un va préparer le café pour moi? Ou alors on peut venir à l'Église avec l'attitude, l'attente, est-ce que je peux servir? Est-ce que je peux trouver là dans cette communauté des gens que je peux aimer et servir? Et certainement, vous allez en trouver, parce que c'est la volonté de Dieu pour vous, que vous puissiez devenir serviteurs les uns des autres. Et moi aussi, je sois votre serviteur. Mais après avoir fait cette introduction qui parle de l'amour, il va développer un petit peu plus l'opposition, parce que sinon ce serait facile. S'il n'y avait aucune opposition intérieure en nous, alors on ferait toujours ce que Dieu veut. Mais il y a un problème, c'est que l'esprit est opposé à la chair. Et que nous devons alors faire une sorte de lutte interne pour nous battre contre nos anciennes pulsions, nos anciennes passions. Il le dit d'ailleurs au verset 24, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Ce n'est pas assez de simplement dire, qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu désires? Ce n'est pas la bonne question. Parce que mon ancienne nature a ses passions et ses désirs, mais ce n'est pas cela que je dois suivre. Je dois plutôt mettre ça à mort pour vivre avec le Seigneur dans la vie de l'esprit. Alors comment est-ce que l'esprit va nous conduire? En fait, il explique que, verset 17, les désirs sont contraires à ceux de l'esprit et l'esprit est à l'œuvre en nous. Il s'oppose entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. C'est très important. on saisit que la liberté en Christ n'est pas faire ce que nous voulons, faire le mal. La liberté en Christ signifie plutôt faire librement ce que Dieu veut, ce que l'Esprit veut. Et avec une autre motivation, parce que, verset 19, vous n'êtes plus sous la loi. Parfois, en tant que chrétien, on a parlé de ça, n'est-ce pas ? On veut avoir un règlement. On va avoir de la discipline. On va avoir des lois, des commandements, des principes. Mais vous savez, rien de tout cela ne peut vraiment changer notre cœur. Et rien de cela n'aura la même force que le Saint-Esprit lorsque l'Esprit vient en nous pour nous sanctifier. Un règlement extérieur que vous pouvez mettre sur votre mur, que ce soit votre mur Facebook ou sur votre vrai mur, vous allez juste proclamer ce que vous voulez faire. Mais pour te changer à l'intérieur, il faut plus que simplement dire « je vais me lever à telle heure, je vais prier un certain nombre de minutes, je vais essayer de m'efforcer à suivre mon règlement intérieur ». Pour devenir un meilleur chrétien, nous avons besoin de l'Esprit en nous. C'est plus que s'imposer des activités, ce n'est pas se dire qu'il faut faire ceci ou cela. Ça, ce n'est pas le chemin de la sanctification, c'est du légalisme. Mais avec le Saint-Esprit, on a un changement intérieur. Alors on se dit, mais comment est-ce qu'on peut grandir avec le Saint-Esprit ? Et la réponse ici est que nous devons nous laisser conduire par l'Esprit. Il parle d'être conduit par l'Esprit, verset 25. Laissons-nous conduire par l'Esprit, il le dit au verset 18 et au verset 25. Donc c'est vraiment pour qu'il nous aide à le comprendre. La question est, comment alors être conduit ? Vous savez, celui qui nous conduit, c'est celui qu'on écoute. Et la personne qui vous influencera le plus est la personne que vous écoutez le plus. Si tu t'écoutes toi-même, en train de te plaindre de ta journée, ou en train de te dire, allez, sors du lit, fais quelque chose, ben c'est toi qui vas être l'influence majeure sur ta vie. Si tu écoutes principalement les réseaux sociaux et ce que les autres sont en train de se dire en se vantant de leur style de vie, c'est eux qui vont avoir une influence sur toi. Mais si tu écoutes le Seigneur principalement, et sa parole souvent est dans tes oreilles, dans ton cœur, alors en écoutant plus le Seigneur, c'est lui qui va être l'influence principale sur ta vie. Vous voyez, le Saint-Esprit nous conduit lorsqu'il nous parle. Il nous conduit si nous l'écoutons avec attention et souvent. Mais aussi l'Esprit nous conduit parce qu'il nous fortifie intérieurement. Il fait ce que le règlement extérieur ne peut pas faire. Il change notre être intérieur. Il nous donne de nouvelles envies pour qu'il n'y ait pas seulement la chair et l'esprit, mais il y a aussi la chair, la nouvelle nature et l'esprit. La nouvelle nature que Dieu produit, que Dieu renouvelle, qui passe par notre renouvellement de l'intelligence. Mais ça va jusqu'au renouvellement de nos envies, pour qu'on ait envie d'autre chose, qu'on ait envie de passer au-delà du péché. Et avec l'esprit, la bonne nouvelle est que nous irons beaucoup plus loin dans la bonté et l'amour qu'avec notre règlement ou avec la loi. Regardons la différence entre les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Alors il fait un contraste entre les œuvres et le fruit. Je pense que c'est délibéré, les œuvres et le fruit. Il utilise le même langage en Éphésiens 5, le fruit de l'esprit et les œuvres sans fruit des ténèbres. L'idée c'est qu'on fait des œuvres, mais c'est le contraire de ce que Dieu veut. Et puis on produit du fruit. Et c'est exactement ce que Dieu veut parce que son esprit est vivant en nous. Et comme un arbre vivant produit du fruit, bien nous vivons en Christ et nous produisons le fruit de l'esprit. Mais d'abord, on va regarder les actes de la chair parce qu'il est décrit, les œuvres de la nature humaine, les actes de la chair, versets 19 et suivants. Et là, en fait, il y a une liste. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais ça couvre différents domaines. Il y a 4 domaines qui sont évoqués dans cette liste. La sexualité, la spiritualité, le relationnel et ce que j'ai appelé le festif. On entre un peu dans la période des fêtes, n'est-ce pas, en décembre. Ce sera bientôt le moment de faire la fête. Eh bien voilà, c'est un domaine qui est aussi traité par la chair. Alors qu'est-ce qu'il dit par rapport à ces œuvres ? Ben, les œuvres de la nature humaine, de la chair, sont évidentes. dans le domaine de la sexualité, qui, au lieu d'être réservée au cadre sécurisant du mariage, implique d'autres personnes dans la pornographie ou dans des relations légères. Et les œuvres, ce n'est pas seulement les pratiquer, mais c'est aussi les regarder. Et je pense que d'autant plus aujourd'hui, c'est une tentation de regarder ces œuvres de la chair, même si on n'y participe pas, on est quand même participant. Même si on n'est pas actif, je veux dire. J'essaie de rester un peu au courant de ce qui se passe dans la société, et il y a de temps en temps des nouvelles séries qui sortent, et je me renseigne sur quelles séries sont disponibles. Mais souvent, je me dis, Paul, tu ne regarderas jamais cette série. Parce que je sais que même si c'est attirant pour mon ancienne nature, ça ne va pas me faire du bien dans la liberté que j'ai dans l'esprit. Je dois pouvoir dire non, je ne vais pas regarder cela pendant que les autres sont en train de pratiquer les œuvres de la chair. Mais ensuite, il parle d'autres exemples. Il parle du domaine spirituel. Vous voyez, l'idolâtrie, la magie, verset 20. L'idolâtrie, c'est lorsqu'on adore autre chose que Dieu à la place de Dieu. On a peut-être Dieu à notre image, ou Dieu d'une autre religion, ou simplement une idole, quelque chose qui a de l'importance pour soi. Et ceux qui adorent le pouvoir que la magie semble offrir sont très vite déviés du vrai Dieu et de l'Esprit Saint. Ce mot d'ailleurs, magie, est lié avec l'usage de la drogue. Et bien sûr, on voit ça, n'est-ce pas, aujourd'hui. J'étais frappé en visitant une petite ville en Angleterre qui s'appelle Glastonbury. C'est une petite ville qui n'est pas en soi très intéressante, mais c'est le lieu d'un grand festival de musique chaque année. C'est un peu comme Tomorrowland, mais en plus grand, en Angleterre. Et dans cette ville, quand il n'y a pas le festival, parce que la plupart de l'année, il n'y a pas le festival, on se promène dedans, on voit vraiment que c'est une ville touchée par la magie et l'occultisme. Ça se voit par les magasins, par les choses qui se trouvent au bord de la route, les décorations un peu de la ville. Il y a des signes de magie partout. Et peut-être que c'est votre tentation, peut-être que c'est votre arrière-plan, est influencé par la magie. Vous voyez comment la chair est très variée dans ses œuvres. Mais c'est aussi quelque chose qui est interdit pour ceux qui appartiennent dans le royaume de Dieu. Puis il parle du relationnel. Il parle des jalousies, la haine, les querelles, les colères, les divisions. C'est la jalousie au quotidien, n'est-ce pas, dans certains milieux de travail. Je parlais avec une coiffeuse récemment qui disait que lorsqu'elle travaillait ensemble avec d'autres coiffeuses, l'ambiance était hostile parce que tout le monde disait du mal les unes des autres, derrière le dos des autres. Et elle disait qu'elle en avait marre, mais elle ne savait pas comment s'en sortir, à part évidemment travailler toute seule. Des relations où on se mord les uns les autres, verset 15. Le problème, là, c'est de la chair qui s'exprime, n'est-ce pas? Et si nous n'avons pas l'esprit, on n'aura pas de miséricorde pour les autres et pour leurs défauts de caractère. Et puis le quatrième domaine, c'est le domaine festif. Il parle de l'ivrognerie, verset 21, les excès de table et les choses semblables. Ces choses sont évidentes, dit-il, et c'est vrai qu'elles sont caractéristiques de la vie du Belge. Le Belge moyen vit avec des excès de table et de l'ivrognerie. En Europe et en Afrique, c'est pareil. Et nous serons très vite emportés par cela, par notre ancienne nature, mais aussi par notre entourage. Et donc, frères et sœurs, avec toute cette liste de choses qui sont les œuvres de la chair, je dois vous poser la question, est-ce que vous mettez des limites? Parce que si, pour toi, tu regardes tout ce que tu veux, et tu manges tout ce que tu veux, et tu bois tout ce que tu veux, et tu dis tout ce que tu veux, sans aucune limite, je n'ai pas de preuve que tu appartiens vraiment au royaume de Dieu, verset 21. Parce que tu es en train de vivre comme ceux qui n'appartiennent pas au royaume de Dieu. Est-ce que tu arrives à te limiter, à dire non, je ne regarderai pas ça, je ne ferai pas ça, je ne dirai pas ça, à cause de l'esprit qui est en toi? Alors j'imagine que nous sommes tous mal face à cette liste parce que quelque part, il y a des éléments là qui nous concernent chacun et chacune. On n'est pas tous tentés de la même manière, mais on est tous tentés. Et on est tous aussi sensibles aux fautes de notre passé, que ce soit dans l'immoralité sexuelle ou dans l'idolâtrie. On a adoré autre chose, on a pris une autre priorité dans notre vie. Ou les querelles de la semaine passée, ou l'ivrognerie, des choses qui nous hantent après, le souvenir de cela nous est pénible. Mais vous savez, le paradis n'est pas pour ceux qui n'ont jamais commis aucun péché. Le paradis est pour ceux qui ont été pardonnés de nos péchés. Et merci Seigneur, c'est exactement ce qu'il nous offre. La conséquence est que maintenant que nous sommes sauvés, maintenant que nous sommes justifiés, maintenant que nous sommes libérés, et lavé de nos péchés, nous devons vivre différemment. Nous ne pouvons plus vivre comme le monde, comme le Belge moyen, ou comme les autres. Notre vie doit être différente de ce qu'elle était, et ce que nous ferions naturellement. Alors là, le Saint-Esprit nous aide, et on va comprendre qu'à travers le Saint-Esprit, il est possible justement de voir ce fruit dont on va parler maintenant. Le fruit de la sainteté. Vous savez que quand vous voulez savoir si le Saint-Esprit est vraiment présent dans une vie ou dans une communauté chrétienne, il faut poser la question, est-ce qu'il y a de la sainteté? La preuve que le Saint-Esprit est présent n'est pas que les gens crient ou tombent par terre ou ont des choses spectaculaires comme lorsque les gens sont dans des spectacles d'hypnose, ça se passe aussi là-bas, n'est-ce pas? La sainteté est la caractéristique marquante de la présence du Saint-Esprit. Parce que la sainteté est quelque chose que nous ne pouvons pas produire naturellement. Et donc c'est clair que c'est une œuvre surnaturelle si la sainteté est produite dans notre vie, un signe indéniable que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre en nous. Alors on a dit que l'Esprit est opposé à la chair. Maintenant on va voir à la fin de cette lecture que l'Esprit s'exprime par ses fruits. Regardez les qualités qui sont produites par l'Esprit au verset 22. Alors ce n'est pas une liste complète. Il y a d'autres choses que le Saint-Esprit produit, comme la sainteté, le courage, la justice, choses qu'on pourrait évoquer comme des fruits de l'Esprit. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais on a quand même une liste qui nous aide à comprendre toute la variété, la manifestation du caractère de Dieu dans notre vie. Et qu'est-ce qu'on y trouve? On retrouve l'amour, c'est un grand thème de ce message. Il a déjà évoqué l'amour, maintenant il revient sur ça. L'amour, premièrement. La joie, la paix, la patience. La bonté, c'est-à-dire être bon envers les autres, bienveillant. La foi, ou la fidélité. La douceur, c'est-à-dire ne pas insister sur nos droits, être doux avec les autres. La maîtrise de soi. Et on comprend bien que ces choses vont ensemble. Imaginez une personne joyeuse. Elle va être en paix. Quelqu'un de patient est joyeux parce qu'il n'est pas énervé. Il attend, donc il peut être joyeux. Quelqu'un qui parle avec bienveillance, qui tient sa langue, il maîtrise son corps. La maîtrise de soi va avec la bienveillance. Quelqu'un qui aime est quelqu'un de bon, c'est un bon ami. Vous voyez comment toutes ces choses se produisent un peu en même temps et les uns après les autres pour qu'on soit complètement à Dieu. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on a tous tout. Il y a plutôt certains domaines qui sont plus difficiles. Comme avec le péché, avec le fruit de l'esprit aussi, il y a certaines qualités qui peut-être sont plus difficiles pour chacun de nous. Alors, en disant cela, il évoque tout ce que le fruit de l'esprit représente, et puis il dit contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Il n'est pas en train d'enfreindre la loi de Dieu, il est en train d'accomplir et d'aller plus loin dans la sainteté. Alors, ça nous pose, n'est-ce pas, la question, est-ce que nous sommes comme cela? Est-ce que nous pouvons dire que nous sommes bienveillants, fidèles, patients? Imaginez une communauté qui serait marquée par ces choses, où il y aurait de la paix dans les relations. où les membres sont bons les uns envers les autres, où ils sont souriants, ils sont fidèles, ils sont doux. On aurait envie de faire partie d'une telle église, n'est-ce pas? Et c'est justement à cela que Dieu nous appelle. Tandis que l'égoïsme et le légalisme tuent une communauté, et il ne faut pas avoir, il parle de vanité, verset 26, la vanité de penser qu'on est meilleur ou d'être en compétition les uns contre les autres, ça va tuer la communauté. On doit plutôt mettre en œuvre notre amour les uns pour les autres. En ayant fait ce portrait des fruits de l'esprit, on a compris qu'on a vraiment besoin d'aide, n'est-ce pas? On a vraiment besoin d'aide. Mais alors on doit marcher à la suite de l'esprit et heureusement l'esprit est là pour nous aider. Quand un enfant passe du temps avec son père, il devient comme son père. Quand un enfant devient ou passe du temps avec sa mère, il devient comme sa mère. C'est naturel et donc nous devons passer du temps à marcher avec Dieu jour après jour pour que ses priorités deviennent les nôtres. Son regard sur le monde devienne le nôtre. Sa joie devient la nôtre. Et que sa force puisse agir en nous pour produire ces nouvelles qualités. Alors ne soyons pas découragés ce matin si nous disons, ouais, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Oui, c'est clair. Nous avons encore à être sanctifiés, nous avons encore à être transformés. Mais je sais que c'est pénible à regarder, mais nous devons regarder honnêtement là où sont nos points faibles et pouvoir les travailler ensemble avec le Seigneur. Parce que nous avons reçu le pardon de Dieu et nous recevons sa grâce chaque jour, nous pouvons justement dire maintenant avec l'Esprit, je vais agir par sa force. Alors quand tu regardes cette liste des fruits de l'Esprit, il y a un fruit ou l'autre qui est manquant dans ta vie. C'est peut-être celui que tu as oublié quand tu as fait la liste tout à l'heure. On avait essayé de faire la liste ensemble. Peut-être que tu as oublié qu'il y a certaines qualités que Dieu veut voir dans ta vie. Alors sois spécifique dans tes prières. Je t'encourage à cibler le fruit que tu vois le moins dans ta vie et de prier pour ce sujet-là. Seigneur, donne-moi de porter du fruit, d'avoir de la bonté ou de la patience ou de la maîtrise de moi. Cible un de ces sujets et prie pendant plusieurs semaines par rapport à ça et Dieu exaucera ta prière et t'aidera à porter ce fruit pour lui. Mais surtout, soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants parce qu'en fait, nous avons déjà reçu la liberté. Avec le pardon, nous avons reçu la liberté et nous avons reçu l'Esprit pour vivre la vie que Dieu nous demande de vivre. Ce n'est plus un effort humain, bien sûr ça engage notre volonté, mais c'est une œuvre de Dieu en nous. Et cette liberté qui est en nous va maintenant porter du fruit pour l'éternité. Il dit au chapitre 6, verset 8, « Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'Esprit récoltera de l'Esprit la vie éternelle. » Je vous encourage donc, et je m'encourage aussi, à prendre cette liberté pour porter du fruit pour le Seigneur. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions parce que Saint-Esprit est venu en nous, et grâce à lui, nous pouvons vivre une toute autre vie qui est marquée par ton caractère, ta personne. Alors conduis-nous et fortifie-nous pour que nous puissions être agréables à tout point de vue, à pouvoir résister à la chair avec ses passions et ses désirs, et à pouvoir porter du fruit par ton Saint-Esprit et pour ta gloire. Amen. Je vais inviter le groupe à venir devant. Nous allons chanter un chant qui nous permet de nous concentrer. Nous allons avoir la Sainte Cène aujourd'hui. Et ce chant nous parle de la croix, nous prépare à prendre la Sainte Cène. Nous ferons ça juste après ce chant. Levons-nous pour chanter.